écoutez France Culture.
Voyons voir un peu les dernières nouvelles. Valet de chambre, 42 ans, 1200 francs par mois. Il va un petit peu fort.
It's for you, Mr. Stevens.
Thank you. Mr. Stevens, how do you do?
My lord.
Very good man here, your son. He does the house great service. I don't know what we'd do without him.
Certainly, monsieur. Merci, monsieur le comte.
Jean de Maison.
Madame Affamé?
Bonne cuisinière, 35 ans, ne pouvant pas quitter Paris. Écrire A, B, 11 bis rue Marbeau. C'est Augustine, ça, ça y est. Elle s'en va encore d'où qu'elle vient d'entrer. Elle peut rester nulle part, celle-là.
Petit monsieur.
Notre nouvelle bonne.
Je suis bonne. Bonne à tout faire.
Une émission de Marion Thibat, réalisée par Christine Robert. C'est une belle maison ici.
Oui. Oui, très belle maison. C'est une maison de début du siècle. Et on a mis. Moi, ça fait 16 ans que je travaille pour Dormant. Enfin, pas tout à fait 16 ans parce que c'est ma femme qui travaille pour Dormant. Et moi, finalement, je suis venu travailler avec lui depuis 92.
Aujourd'hui, l'étrange maison d'Anatole.
Quand je suis venu habiter ici, la maison n'était pas tout à fait comme elle est aujourd'hui. Cette maison, on dirait qu'il est un peu dans un décor de cinéma. Ici, tout est du trompe-l'œil. Vous voyez là, les balustrades, les fausses balustrades, Marmara. Les trompe-l'œil ont été faits par Fabio Rieti. On a essayé de mettre la maison comme s'il y avait une mise en scène de la vie pour jouer une comédie.
Ici, par exemple, nous
ici,
sommes...
Ici, par exemple, c'est dans la serre. C'est un jardin qui, en hiver, est intenable. Il y a un jardin d'été qui, en été, c'est intenable.
Un hôtel particulier, dans une voie privée du 16e arrondissement, à Paris, les personnages, le maître, Anatole Dormant, producteur de cinéma, a décidé de vendre sa maison pour faire face à une situation financière difficile. Son employé de maison, Pedro Joachim, s'efforce de lui soutenir le moral. La scène se passe un samedi après-midi.
Là, c'est une baignoire délirante. Un cuivre. Et dans le temps, il y avait un trompe-l'œil, un lac avec deux dauphins. C'est-à-dire, vous voyez, il y a à peu près une mise en scène avec le hublot et tout ça. Quand vous arrivez, vous voyez les choses, mais vous ne les voyez pas vraiment comme il faut parce qu'il y a des miroirs, il y a des jeux de miroirs. C'est très difficile de différencier, si vous voulez, le vrai de l'imaginable, ce qui n'est pas vrai, les réels.
Amour, haine, humiliation, fascination, affection, servir, être servi. Dans le meilleur des cas, chacun peut y trouver son compte. Malgré les apparences, entre hier et aujourd'hui, les choses n'ont finalement peut-être pas tellement changé. Amour, haine, humiliation, fascination, affection, servir, être servi. Prologue. entre chez vous par le décor en trempe-l'œil.
On peut rentrer par là.
Mais derrière la bibliothèque, on peut ouvrir
derrière,
la bibliothèque.
On ouvre la bibliothèque avec les sagittaires, mais il y a des charnières, précisément, parce que Domon n'aime pas tout ce qui est additionnel. On a essayé de faire des charnières qu'on ne puisse pas voir, que ça fasse naturel. Les charnières sont très, très fragiles. J'ai ouvert une fois, je l'ai cassé. Donc, je ne passe jamais par là.
Comment entre-t-on chez vous?
Alors, on descend par l'escalier qui est entouré
L'escalier principal. Du faux marbre
peint sur les murs. La balustrade avec une mise en scène, les armes du crime, la canne bulgare et la canne épée, la rose empoisonnée et le browning. Là, on est en dessous de la ville métaphysique. Vous voyez, c'est cette case-là.
Et là, c'est un second escalier.
Et là, c'est un deuxième escalier. C'est, si vous permettez, c'est un escalier de service. Là, c'est un miroir saint-teint. Là, nous redescendons. Faites attention de ne pas taper avec la tête. Voilà.
Pedro, ici, là, nous sommes chez votre ici, patron.
On est chez Anatole.
Vous nous recevez chez lui.
Je vous reçois chez moi. Il n'y a pas de chez lui, il n'y a pas de chez moi. Ici, c'est chez nous, c'est la maison. Domon ne dit jamais, quand je dis, monsieur, où est-ce qu'on va maintenant? Il ne m'a jamais... Vous savez, c'est les petites choses, c'est les petites cerises sur le gâteau. Il ne m'a jamais dit, je rentre chez moi. On rentre à la maison. On va à la maison. On va chez nous. J'ai oublié de vous montrer cette salle de bain. Je me plais à dire que c'est une réplique de la salle de bain d'Orient Express, mais ce n'est pas une parce qu'il n'y avait pas de salle de bain d'Orient Express. Alors, c'est le tapis de l'Orient Express, c'est la bagagère qui vient de l'Orient Express, et c'est le même bois qui était utilisé dans les voitures. Vous n'êtes jamais rentré dans un Orient Express, moi non plus. Là, c'est les baigneuses. Et ça reflète, si vous voulez, le miroir. Vous voyez le jeu? Voilà. Elle est plus belle que demain quand elle se fait sa toilette, mais bon. Là, c'est des tableaux qui lui plaisent. C'est l'ordre de la grande gidouille à laquelle il est très fier d'appartenir. Donc là, nous descendons. Vous voyez, ça, tout ça, c'est les trous que j'ai fait dans la moquette les fois que j'ai arpenté l'escalier. Vous vous rendez compte les fois que je monte? Alors, là, nous entrons dans la salle de séjour.
Vous êtes partout chez vous ici, ça veut dire que vous allez dans toutes les pièces de la maison, y compris dans la chambre de votre maître?
Exactement, non, mais c'est tout à fait ça.
Ce mot-là, maître, vous l'employez jamais?
Ah non, je le ressens.
Patron
pas.
Non plus.
Non, patron non. Pour le taquiner, je dis oui patron parce que ça l'agace. Et inconsciemment, maintenant que vous me dites ça, je me pose la question quand il me demande, quand il me dit, il m'ordonne même de dire, je ne veux plus que vous m'appelez monsieur, mais Anatole. Appelez-moi Anatole. C'est ma façon de me venger du travail qu'il me donne. De l'agacer, de dire oui, monsieur, parce qu'il sait que ça ne lui plaît pas. Mais c'est aussi pour établir une certaine barrière, une frontière, si vous voulez, c'est-à-dire c'est une limite que je m'interdis à moi-même de dépasser et je l'interdis à lui.
Acte 1, scène 1. Pedro Joaquim, vous êtes toujours portugais?
Toujours portugais, fier de l'être, un bon chauviniste que je suis. Au Portugal, moi je suis né en 59, donc mon âge est de... Je vais faire 38 en août. Et au Portugal, j'ai fait mon service militaire au Portugal, je suis venu très tard ici. Je suis venu ici pour passer des vacances. Et passer des vacances de Noël avec mes parents. J'étais à la faculté, la première année de la faculté à Lisbonne. Et je venais de sortir du séminaire. Le séminaire, c'est un collège, je sais pas si on appelle ça comme ça ici aussi, pour être prêtre. Et ça ne se passait pas très bien entre moi et mes supérieurs. Et sur un coup de tête, je suis parti du séminaire. Et je suis rentré en première année de faculté.
Vous aviez envie d'être prêtre?
Oui. Ah oui.
C'était un rêve d'enfant?
C'était un rêve d'enfant. Je vais vous dire, je suis élevé dans la croyance, la foi catholique. Et je me suis trouvé très tôt.
Vous aimiez aller à la messe?
Ah oui. Moi, je donne beaucoup de valeur à quelqu'un qui est capable, devant une foule, de parler. Sans bégayer, sans... Et quand j'arrivais au Portugal, où j'habitais un petit village de 15 000 personnes, et la messe était pleine. C'était une grande messe. L'église était pleine, tout le temps, et cette révérence, les gens en silence, qui étaient là, on s'agenouillait comme à l'armée, vous savez, tous en même temps, on répondait en même temps, et ça m'a fasciné tout le temps. Et moi, je voyais ce bonhomme, au fond, habillé en femme, je disais qu'il était habillé en femme parce qu'avec des jupes, gitanes, j'admirais.
Des soutanes.
Voilà, je crois que c'est ça. Et ma mère, ma grand-mère, que j'adorais, la mère de mon père, qui s'appelait Adélaïde, moi, je crois au-delà et je dis qu'elle est toujours là, qu'elle me protège. Et je suis sûr parce que j'ai eu vraiment de la chance dans ma vie. Et c'est ma petite étoile et qui me la garde aussi très, très longtemps. Et quand elle est morte, c'était une galère. Elle est morte au nord du Portugal, chez mon père. On m'a enfermé dans une chambre et j'ai sauté 2 étages. J'avais à ce moment-là 6 ans. Je suis allé courir au cimetière et je ne voulais pas lâcher la chose de ma grand-mère. Parce que je l'adorais, je croyais pas que ça pouvait arriver à quelqu'un, je ne savais pas que c'était la mort. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder les gens qui pleuraient habillés en noir. Chez moi, ils s'habillaient toujours en noir. Une femme décente, c'était une femme qui avait complètement les chevilles couvertes. Alors, j'ai commencé à regarder ça et je me suis dit... J'ai commencé à écouter plus attentivement la messe. La messe, pour moi, jusque-là, c'était beaucoup de monde qui obéissent à un homme. C'est-à-dire, il lève le bras, les gens lèvent le bras, ils baissent. Et là, je me dis, je pourrais peut-être faire quelque chose. Parce qu'à la messe, j'entendais dire, prions pour nos frères qui sont morts, et patati, patata. J'ai dit, je vais prier pour ma grand-mère. Mais si je suis de l'autre côté de l'hôtel, je pourrais le faire mieux. Et je crois que c'est à partir de là que la vraie foi et l'envie d'être prêtre m'est venue. Et à 8 ans, je sortais du catéchisme, j'avais une petite fenêtre carrée comme ça, et avec un parapet comme ça, qu'est-ce que je faisais? Je mettais une carotte, je faisais une chose en rond avec un carton, je mettais la chose pour faire le semblant que c'était l'hostie, et je priais, et je peux vous dire que moi, à 11 ans, je savais la messe par cœur. Mais je suis sorti pourquoi? Parce que je me suis commencé à poser des questions. Et il y a une chose, c'est des questions sans importance, mais... Ça me tracassait. Moi, j'étais au séminaire, je voyais le prêtre sortir tous les soirs. Et je me disais, mais où est-ce qu'il va tous les soirs? Où est-ce qu'il va tous les soirs? Et un jour, par hasard, je me promène, je le vois avec un bras sur l'épaule d'une femme. Et pour moi, c'était la fin du monde, ça. Un prêtre, comme ça. Finalement, il a lâché, il a renoncé à ses vœux, il s'est marié. C'était un bon prêtre, c'était un bon catholique. Ça a été un bon catholique. Il a renoncé à ses vœux, il s'appelait Louis, je l'admire toujours. Mais ça m'a choqué. Je commençais à poser des questions. Alors, il y a un moment donné, vous savez, à Pâques, dans le carême, au Portugal, si vous payez une certaine somme, aujourd'hui, c'est pas que ça se passe comme ça, les gens sont passés. C'est plus important. Mais si vous payez une certaine somme, vous pouvez manger de la viande. Parce qu'il y a 30 ans, la nourriture des pauvres, c'était quoi? Les poissons. Alors, les pauvres, comme n'avaient pas d'argent, ils ne pouvaient pas manger de la viande pendant le carême. Et on était obligés de manger du poisson. Alors, je posais la question que j'étais au séminaire, j'avais 12, 13 ans, je me disais, j'ai posé la question à un prêtre, pourquoi un riche peut-il manger de la viande et un pauvre ne peut pas? Si ça se peut, un pauvre, il croit plus en Dieu qu'un riche. La maladie n'a rien à voir. Le prêtre, tôt ou tard, tout le saura. Et ça ne m'a pas satisfait, cette question. À partir de là, vous commencez à vous poser des questions. L'âge avance aussi, 14, 15 ans, 16 ans. Moi, j'allais au lycée de Figueira da Foz, au centre du Portugal. On voyait d'autres filles, on voyait des garçons embrassés. Peut-être que je me posais des questions, c'est quoi ça? Vous savez, j'ai vécu dans un cocoon, si vous voulez. Jusqu'à 20 ans, j'étais dans un cocoon, je ne savais pas. C'est quand je suis sorti, quand je me suis pris en charge, si vous voulez, quand je suis sorti du séminaire. Et je peux vous dire que avec Doman, quand je suis venu ici, j'étais un gamin.
Vous avez été embauché en tant que quoi ici?
J'étais embauché en tant que secrétaire privé. Et si on me dit, qu'est-ce que vous faites, vous, ici? Moi, je suis l'homme à tout faire qui essaie de faire le moins possible. C'est-à-dire, dans l'ombre, en travaillant dans l'ombre.
Scène 2.
Quand vous êtes dans l'entourage de quelqu'un qui brille, vous êtes attiré. Voyez, vous êtes à côté de lui, vous l'observez, vous êtes attiré. On ne peut pas être mi-soupe, mi-raisin, si vous voulez, avec deux mains. Ou on y est, ou on n'y est pas avec lui. On est avec lui, on est contre lui. Ou on l'aime, ou on le déteste. Des fois, on me pose des questions, moi je lui dis, je le déteste amoureusement. Parce qu'on a des rapports. Le rapport que j'ai avec Domon, ce n'est pas un rapport de patron-employé. Il se défend moi aussi. Ce n'est pas un rapport de ami-ami, ce n'est pas un rapport. C'est des rapports très, très spéciaux, c'est des rapports presque passionnés parce que la mise en route. La journée, chaque journée, se fait par un engueulade. Que ce soit moi qui l'engueule, que ce soit lui qui m'engueule à moi. Pour des choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui est très perfectionné. Oui, chérie.
Tu peux chercher une douleur.
Non, là, je suis occupé. Attends. Que ce soit pour. D'habitude, c'est lui qui. Il commence, il démarre, lui, l'engueulade. Moi, je m'emporte parce que je suis méditerranéen. Lui, pas tellement, mais. Parce qu'on aime le travail qu'on fait. Lui, il adore son métier. Moi, j'adore j'aime bien le métier qu'il fait, surtout depuis que je suis avec lui, parce qu'avant, c'était un peu anonyme. Être maître d'hôtel, j'étais un maître d'hôtel à l'ambassade du Portugal, c'était anonyme. C'était rien. Ici, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses.
Vous étiez en habit à l'ambassade ?
À l'ambassade du Portugal, j'étais en habit. C'est-à-dire, dans le jour qu'il n'y avait rien, j'étais un pantalon noir, veste rouge avec une cravate. Et quand il y avait des soirées, c'était veste blanche, gants et tout ça. Ici, mes habits, c'est comme ça.
Vous êtes en jean et en t-shirt ?
Jean et en t-shirt. J'ai travaillé pour des ambassades pendant très longues années. Et le costume cravate, ça me pèse. Et dès que je suis venu ici, c'est comme quand vous êtes condamné à perpétuité et que vous devez vous pressortir. Et je me sens très bien sans costume. C'est très cool ici. Mon patron, il a toujours un costume, d'ailleurs. Il ne dort pas en costume, mais presque.
Et il accepte que vous ne soyez pas en costume.
Oui, il accepte. Peut-être qu'il aimerait bien que je sois. Mais lui, il donne pas. Pour lui, ce n'est pas les signes extérieurs d'une finesse. Pour lui, ça ne compte pas. C'est plutôt ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a sur le cœur. C'est quelqu'un qui voit tout de suite quand les gens sont intelligents ou qu'ils ne sont pas intelligents. Il adore l'intelligence.
Vous êtes salarié ? Vous êtes à son service ?
Oui. Je suis salarié. Je n'ai pas honte de dire mon salaire. J'ai net, brut, 9 000 francs. 9 000 et quelques, je ne sais même pas. Je sais que je touche 7 000 et quelques francs.
Loger et nourri,
quoi d'autre, chauffé par le cœur et par tout le reste, par une belle maison, par une personne qui est superbe, par écoutez, je suis au ciel. Et voilà, parce qu'il y a une différence, je vois qu'il y a une différence de classe entre lui et moi, même s'il essaie de
l'atténuer.
Non, même pas. Il veut pas de ça.
Il veut
pas de ça. De la gommer le plus possible. Il dit qu'il n'y a rien, mais moi je le sens. C'est normal. Il était issu de familles très riches. Ses parents étaient propriétaires de la vodka Domana. Il est d'origine polonaise. Et c'est un homme qui s'est battu. C'est un homme qui aurait peut-être pu vivre de rente de ses parents. Il ne l'a pas fait. Il a fait son affaire. À 20 ans, il avait déjà Argos Film. Et cet Argos Film, c'est une référence dans le monde du cinéma. Il a produit Wenders, il a produit Borowczyk, il a produit Nagisoshima, Rob Grier, Fassbinder, Chris Marker. Il a fait 40 longs métrages, des dizaines et des dizaines de courts métrages. Il a un catalogue des plus prestigieux sur la place publique.
Thank you.
n'êtes jamais senti domestique?
Non, ah non, jamais. Non, domestique, non. Non, 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 ni domestique, ni employé, ni...
Ni serviteur?
Non, ah non, non, rien, tous ces mots médiévaux, ni sabonne. Collaborateur peut-être, je l'aide un peu, j'essaye de l'aider.
Le mot domestique, c'est un mot qui vous insupporte?
Ah oui, je n'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Non, domestique, c'est pas... j'aime pas. Le mot domestiqué, c'est quand même une domination.
Alors qu'employé de maison?
Eh bien, employé de maison, ça veut dire employé dans la maison. Hein? C'est plus au service de la maison que de la personne. Je préfère ce mot-là.
Mais dans le temps, je faisais tout. Je lavais les volets, les carreaux, je grimpais à l'échelle et je faisais tout. Mais puis maintenant, il y a une femme de ménage.
Je ne me suis jamais senti un domestique. Parce qu'il y a des gens qui sont pleins de complexes. Moi, j'en ai rencontré des tas de gens comme ça, avec lesquels je devais faire très attention avec les plantes, avec doigté, avec la manière que je devais leur parler. J'ai toujours traité les gens en disant, les appelant par leur nom, s'il vous plaît, vous allez me faire ça, ça et ça, vous allez aller me nettoyer dans un salon. Toujours avec courtoisie.
Maria, elle, il ne faut pas la bousculer. Moi, ça me fait drôle parce que dans le temps, c'était pas comme ça. Alors, quand je la vois planer comme ça, je dis vraiment, elle gagne des sous. Hein. Elle pas se fatiguer trop. Et je dis toujours, elle a trouvé une place en or. Toujours, je le dis.
Moi, j'aime bien, c'est pas... J'aime bien commander. Enfin, commander, si vous voulez, une façon de parler, commander. Mais je suis très, très maniaque, je suis très ordonnée. Et j'aime bien que le boulot soit bien fait. C'est-à-dire qu'un rôle de gouvernante, c'est remplacer une maîtresse de maison. Enfin, remplacer une maîtresse de maison, dans le sens qu'on l'entend, quoi. Quand monsieur et madame sont partis, c'est moi qui ai toutes les responsabilités. Donc, je répartis le travail pour la femme de chambre, pour le cuisinier, pour le jardinier. Enfin, je m'occupe, c'est moi vraiment la responsable. Donc, s'il y a quoi que ce soit, Madame me fait des reproches à moi. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'entendre avec les employés. Bon, je suis quand même assez souple. J'ai peut-être un air un petit peu autoritaire au premier abord. C'est vrai que c'est pas évident.
Vous avez le chignon de la gouvernante.
Voilà, exactement. Oui.
Pour vous, alors, qu'est-ce que ça veut dire, servir?
Servir. Vous savez, c'est... C'est dur de dire servir parce qu'aujourd'hui, on n'en parle plus de servir. On voit plus, on voit plus de bon à tout faire ni tout ça. On voit plus, de gens qui vont travailler chez les autres. Hein. Mais ça a été très dur. Mais servir, oh mon Dieu, c'était, ouais, c'était une chose à faire. Il fallait que je le fasse.
Preniez des renseignements, vous, sur les maisons, avant d'aller vous embaucher?
C'est eux qui prenaient des renseignements sur moi. Ils demandaient d'où que je sortais, qu'est-ce que j'étais, et puis ci et puis ça. Ah non, c'est pas moi.
Je suis fière de faire ce métier. Voilà, moi j'ai une certaine fierté, parce qu'avant on disait toujours la bonne à tout faire, l'employé de maison, bon bah c'est pas du tout ça, et il est vrai qu'on est bonne à tout faire, parce qu'il faut savoir tout faire dans une maison, il faut savoir tout faire. Quand vous avez une lampe à remplacer, un petit clou, moi je le fais, quand le maître d'hôtel ou le valet ne peut pas le faire. Bon, la piscine aussi, je suis allée chez un chanteur célèbre, la piscine, bon, ben, je l'ai lavée. C'est pas toujours facile, mais enfin, j'aide le jardinier. J'aide à tout, je prends part à toutes les tâches, quoi.
Vous êtes fière de quoi?
Moi, je suis fière de côtoyer ces gens, parce que, comme je vous dis, je suis allée chez un chanteur, un cinéaste.
C'est le showbiz.
Des gens, voilà, un petit peu. Puis la politique aussi. La politique et les banques. Moi, je suis très fière de dire à mes enfants, ma famille, bon, je travaille chez un tel, et je suis, bon, enfin, pas, vous, je vais vous faire rire. Des fois, quand je rentre chez moi, je me dis, tiens, je suis un petit peu une petite vedette, quoi.
Acte 2, scène 1.
Tenez, une histoire. Quand ma femme est devenue enceinte, et à un moment donné, je me dis, avec, ici, on ne pourra pas. Parce qu'avec demain, avec tous les gens et la disponibilité qu'ils demandent de, avec nous, on ne sait pas si on pourra le faire. Et un jour, j'étais embêté au petit déjeuner, je réfléchissais. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe pour mon bon Pedro? Et je lui dis, oh, je suis embêté, monsieur. Pourquoi, Pedro? Oh, parce que je crois qu'Anna est enceinte. Elle ne m'a rien dit, Anna. Et je lui ai dit, oui, parce qu'elle attend d'être sûre. Et dès qu'elle sera sûre, elle va vous le dire, mais je ne suis pas sûr qu'on le voudra, l'enfant, qu'on pourra l'avoir. Oh là là, il est parti dans une croisade contre moi, fort, et ça a duré 4 ou 5 jours. Mais vous êtes fous, et patati, patata, parce que vous vous rendez compte, un enfant dans cette maison, la joie qu'il va émettre, ben, mais c'est tous les remèdes des mots d'Anna, ça va être tous les remèdes à nos mots. Mais non, il faut. Il était super content, moi j'avais peur.
Papa.
Et je ne vous cache pas que j'ai joué un peu aussi, un peu de... J'étais sournois. Parce qu'au lieu de l'imposer les choses, j'ai joué mon rôle de victime. Oh, je ne sais pas, mais qu'il ne le veuille pas, nous. Moi, c'est ça qu'on attendait.
Il faut ruser.
Papa.
Ruser, ah oui.
Papa.
Parce que lui, il est très rusé aussi. Mais... La différence entre moi et lui, c'est que lui, il est rusé de nature. Pour lui, c'est de naissance, je crois. C'est, comme on dit, c'est né avec lui. Moi, c'est...
Je vais le voir, maman.
D'accord, attends. Demain, avec lui, nos rapports sont... C'est des rapports très spéciaux.
Conflictuels?
Non, pas conflictuels, parce que ce sont des choses qui durent 15 secondes. Et c'est pour ça que je trouve que nos rapports, ils sont très sains. Parce que ce qu'il en pense, il le dit. Et moi, je ne vais pas m'arrêter parce que... Est-ce que je dois dire ça? Non, je ne me pose pas la question. Si je dois lui dire ce que j'ai envie de lui dire, je lui dis. Il m'est arrivé même de lui dire, pas directement, mais lui tourner le dos, il dit, mais qu'est-ce qu'il est con. Il entend, je sais qu'il entend, mais ça, ça aide à avoir des bons rapports. C'est des On a des très bonnes relations, très saines, parce qu'on se dit tout.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui et qu'est-ce que vous détestez?
Ah, j'aime sa culture. J'aime sa façon d'être devant les gens, devant le monde. C'est quelqu'un, j'aime son humeur. Il a qui est très pointu, j'adore ça. Ça, c'est une qualité que je lui ai piquée. Enfin, piquée, non, il la garde toujours, mais j'aime bien jouer avec des mots. Et j'aime... Il a une hargne de se battre. J'aime son passé. Il a fait un livre qui s'appelle Soldier, quand il raconte un peu sa vie. J'aime aussi par les gens qu'on voit défiler à la maison. C'est un homme qui était très fort, mais qui a ses faiblesses. C'est un homme qui quand les choses vont mal... En principe, je devais être là, moi et mon épouse et ma fille, pour l'encourager. Mais je ne vous cache pas, nous, on se décourage beaucoup plus vite que lui. Vous savez, il est unique. Pour moi, il est unique. On n'a pas l'habitude de voir un employé parler comme ça de son patron, mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas un patron. Ce n'est pas un ami non plus. Ce n'est pas un père non plus. Si, c'est un père, si on parle de ce conflit quotidien, quand, vous savez, un père avec son fils, on se bat tout le temps. Alors, ça, c'est un père. Si c'est amitié, si c'est être ami quand j'ai besoin de lui, quand je dis que j'ai besoin de lui, c'est pas pour des affaires d'argent ou ceci ou cela, il est toujours présent, quoi qu'il en soit, mais c'est surtout pour des conseils, quand, vous savez... Tous les couples ont des problèmes. Des fois, j'ai des problèmes avec mon épouse.
Vous lui en parlez?
Et je lui en parle.
Vous confiez
à
lui?
Je me confie à lui. Je lui dis, oh, ça va pas avec Anna, elle m'embête avec ceci, avec cela. Et il me dit, oh, laissez tomber, vous savez comment c'est, Pedro. Il commence à parler.
Mais il est marié, lui?
Il est divorcé deux fois. Donc il sait de quoi il parle.
Il vit seul ici.
Donc il sait de quoi il parle.
Quels sont ses défauts?
Ah, des défauts, il y en a beaucoup. Et ça, il va rigoler. Mais quand je l'ai connu, c'était quelqu'un qui... C'était un homme simple. Par la suite, il est devenu compliqué. Il est devenu compliqué, non, complexe, si vous voulez. Complexe parce que, bon, les choses l'ont voulu comme ça. Les temps sont autre temps. C'est d'autres temps, c'est une autre façon de travailler. La bataille, c'est beaucoup plus alourdi. Il se bat contre le monopole dans le cinéma, UGC et Pathé et Gaumont. Et lui, il aime bien. Il n'est pas pour la pensée unique, il est pour la pensée libre. Je crois que c'est ça, intimement, ce qui me capte, ce qui me captive chez lui, c'est sa façon de penser très, très libre. Si vous dites,
c'est un modèle pour vous, Anatole?
C'est plus, oui, si. C'est plus, je vais vous dire, ça dépasse même le modèle pour moi. Si je pouvais refaire ma vie, j'aimerais que la mienne soit comme la sienne.
Vous l'admirez à ce point-là?
Je l'admire. C'est plus que ça. C'est, je l'admire énormément. Des fois, je me plais à lui dire. J'aimerais bien être son fils. Il a une fille qui est partie aux États-Unis. Les rapports sont un peu froids. Et des fois, ça ne me déplairait pas. Non, je serais même fier d'être son fils.
Il a mauvais caractère?
Oui. Ah oui, là je coupe ma vengeance. Hein. Ça, c'est, il a vraiment un mauvais... Il charrie. Et il a un mauvais caractère. Bon, il est patron et il ne me dit jamais, je suis patron, je fais ce que je veux. Jamais il a employé ça. Quand je dis qu'il est mauvais caractère, c'est que, comment dire, il vous soulève pour mieux vous faire tomber après. Il faut toujours être en garde avec lui. Toujours. Il faut faire attention à chaque mot, à chaque virgule qu'on place, ou aux nuances. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit avec le mot. Toujours. Et... Le matin, il me dit, bon Pedro, vous savez très bien, un bon secrétaire que vous êtes, qu'on va appeler un tel et un tel. Je suis sûr que vous avez déjà confirmé l'avenue de monsieur un tel ce soir à dîner. Vous avez déjà confirmé ceci, cela. Il vous sort 5 ou 6 personnes, alors qu'il sait très bien que je viens de descendre. Là, je dis, mais vous êtes vraiment méchant. Vous êtes vraiment cynique. Vous savez que vous m'avez entendu descendre l'escalier, vous me dites que j'ai fait ça. C'est parti de là qu'on démarre. Des fois, j'arrive avec le pain et le journal sous le bras. Alors, Pedro, qu'est-ce qu'elle dit de bon, la presse? Alors, ça m'agace. Je sais. Vous savez très bien que je n'ai pas lu la presse. Je suis allé en courant à la boulangerie. Qu'est-ce qu'il dit la presse? Laissez-moi le temps de le faire. Alors, moi, le matin, c'est pire que... Je démarre au pétrole. C'est-à-dire, il faut d'abord... C'est pour ça que les engueulades qu'on a le matin sont très saines, parce que ça me met en route tout de suite.
Et qui a mauvais caractère? C'est lui ou c'est vous?
Ah non, je crois tout. On va bien ensemble. Mais... Modestie à part, je crois que moi j'ai très mauvais caractère. C'est pas mon nom. Non, c'est lui qui est mauvais caractère. Non, c'est pas moi. Non. Il faut lui poser la question.
Scène 2.
Là, on va voir maintenant. Je sais pas s'il dort. On vient vous casser. Vous verrez après moi, je vous coupe. Vous y prenez pour votre compte.
Il n'y a plus de grands hommes en Charente.
Je ne voulais pas vous venir réveiller à 6 heures l'après-midi.
Vous avez eu un étoile en pantoufle alors.
Voilà.
Vous avez été sans doute frappé par l'étrangeté de l'homme que vous avez interviewé. Ça a dû vous faire beaucoup d'effets. Eh bien, figurez-vous qu'après 10 ou 12 ans de loyaux services, comme on dit, Pedro ne cesse de m'étonner, lui aussi.
par sa spontanéité, sa vivacité, souvent aussi, malgré toutes les expériences qu'il a connues ici ou ailleurs, par son ignorance. Mais il rattrape ça par une sorte de malice, enfin ne tombant pas dans les clichés, n'est-ce pas, en disant que le peuple est malicieux alors que nous qui appartenons aux classes les plus aisées de la société, ou qui appartenions, puisqu'actuellement, je suis tombé bien bas sur le plan financier à la suite du monopole, n'est-ce pas, qui a raflé tous les écrans de France. Mais j'entends, bien entendu, ne pas m'en tenir là. Mais ça, c'est une autre histoire que je vais vous raconter un jour, peut-être.
Anatole demande, quel type de relation est-ce que vous avez avec Pedro ?
Ambivalente, comme vous avez pu le remarquer. Car, comme le disait mon ami Cazan, il faut toujours parler d'ambivalence. Toujours la haine et l'amour, l'amour et la haine.
Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez lui ? Il est là, alors c'est peut-être un peu gênant de parler.
Chez Pedro ?
Ouais. Sortez, ouais.
Je voudrais trouver une formule ambivalente, c'est-à-dire digne de lui. Mais disons que c'est sa spontanéité. Ce n'est pas vraiment un faux jeton, quoi.
Je vous ai parlé de ce qu'il tous les matins, c'est que ça démarre comme ça. Mais pour moi, cette année-là, c'est quand il me suis dit que c'est ambivalent, parce qu'Azan le traitait comme ça. My ambivalent friend.
Enfin, il a vu passer beaucoup de gens ici, il s'est frotté à beaucoup de gens, Pedro, et il a toujours diverti tout le monde. Voilà.
Vous lui faites confiance dans ce qu'il nous a dit sur vous ?
Écoutez, je n'ai pas d'opinion sur moi. Je fais confiance à personne, puisque je ne sais pas qui je suis.
Bonne soirée.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Vive la vertu.
Oui, patron.
Bravo, signor padrone. Ora incomincio a capire il mistero. E a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io corriero, e la Susanna. Segreta ambasciatrice, non sarà, non sarà, Figaro il dice.
Acte 3.
Bon, là, c'est une petite cuisine.
Voilà. Le domaine de votre femme.
Là, c'est le domaine de la Lyon.
Bonjour.
Alors, des fois, on a des relations aussi très conflictuelles avec elle et avec maman. À tel point qu'il y a environ, il y a deux ans, un an, il y a quoi, il y a un an ou deux, elle a envoyé 1 kilo de foie de veau à la figure de elle a menacé. Et si vous sortez pas de ma cuisine, je vous prends ça sur la gueule à tous les deux. Il est parti par là, moi je suis parti de l'autre côté, parce qu'on était en train de l'embêter, parce qu'on joue tous.
C'est le moment que je vous dise. Oui.
Elle est très timide.
C'est moi que je tiens la maison. C'est moi que j'organise le déjeuner, le dîner. Je fais les courses et il me donne que l'argent. Et alors, à partir de là, je fais mes affaires.
Voilà, Anatole.
Oui.
Oui, il est cool. Il vient ici avec les invités, une chemise et un caleçon. Et des fois, il arrive avec un pyjama rouge.
C'est moi que je le choisis tous les matins.
Ah, c'est vous qui choisissez la cravate du patron tous les matins.
Et la chemise.
Anna, vous n'êtes pas seulement la cuisinière. Vous parlez beaucoup aussi avec le patron.
Oui.
Vous l'écoutez beaucoup ?
Oui, il me raconte toutes ses histoires. C'est encore plus grave.
Quel est votre rôle ?
Je ne sais pas. Je fais un peu de tout, quoi. pas rigolo parfois, mais ça va.
Vous êtes dévouée à Anatole ?
Je crois, oui. Je crois. Parce que j'ai eu beaucoup de propositions. Et moi, je n'ai jamais quitté.
Qu'est-ce qui vous attache ici ?
Je ne sais pas, je crois que je m'habitue avec lui. Et je ne pense pas que je vais m'habituer avec une autre personne. Parce que lui, il est une personne très, très, très spéciale.
Un peu caractériel.
Beaucoup.
Et qu'est-ce qu'il aime, Anatole ?
Rien du tout. Jamais dans ma vie, j'ai vu une personne aussi difficile. Parce que sa mère était une belle cuisinière. Elle cuisinait très bien. Et alors, moi, j'arrive pas à faire le même goût que sa mère faisait dans les plats.
Alors, la note maximale 20 sur 20 pour Anna, c'est dire, Anna, vous me faites oublier le poulet de ma mère, ou les pirouchkis de ma mère, ou le borscht de ma mère, ou n'importe quel plat qu'elle fasse. Alors ça, c'est vraiment que c'était... Mais aujourd'hui, là, il dit une chose, deux minutes après, il dit une autre. Alors, une chose qu'il a, lui, et ça, ça m'agace, c'est... Là, lui, il vient ici, il ouvre le frigo, il fait ça, regarde. Il prend un verre, il ouvre l'armoire, il prend un verre, il verse le lait, il va avec le verre par là, viens, il m'attend quand j'arrive, tout est comme ça.
Il laisse même le frigidaire ouvert.
Et je lui ai dit, mais il faut faire attention. Là, maintenant, il commence à faire un peu plus attention, mais c'est comme ça. Il laisse tout ouvert pour où il passe.
Il est habitué à être servi
tout, ah oui, complètement.
Ça, il est depuis tout bébé qu'il est habitué à être servi. C'est pour ça qu'il ne sait pas ouvrir une bouteille.
C'est pas ouvrir une bouteille ?
Non. Il ne sait pas faire les choses normales que nous, nous autres, on sait faire. C'est ce que je vous dis. Il nivelle par le haut. Nous, ouvrir une bouteille, décapsuler, n'importe, on le fait. Lui, il est incapable. Non, mais si vous lui demandez de parler de Verlaine et de cinéma, ben, il vous sort trois jours d'affilée. Et les choses... C'est quelqu'un qui l'avoue. Et nous, on est en bas. Les choses de la vie, on s'en sort. Lui, il ne s'en sort pas. Voilà.
Suzanne, vous mangiez où ? À la cuisine ?
Ah, toujours. J'ai à la cuisine. Ça faisait partie de mon indépendance, hein. Ouh là là, oui. Ah non, non. Ah non, non. Ça, de manger seul, non, ça. Compte tenu du genre de travail qui nous est demandé, manger seul, c'est au contraire... je crois que ça fait partie du moment de détente, quoi.
Comment ça se passait ? Vous mangez à la table du patron ou bien...
En étant jeune homme, non. On mangeait dans la même salle, mais pas à la même table. Mais la même cuisine. Hein. Il n'y avait pas de différence.
Et vous parliez d'une table à l'autre avec les patrons ?
Ah non, non. Il non. Non, non, fallait quand même pas mélanger torchon et serviette.
Quel est le pire défaut pour un patron ?
C'est de manquer de confiance. Moi, je pense que ce qui est important, le plus important, c'est la confiance entre l'employé et l'employeur. Si l'employeur n'a pas confiance en vous, c'est pas la peine que vous restiez. Hein.
Quel est le pire défaut pour un employé de maison ?
Alors, ça, je sais pas. Moi, j'ai eu des qualités, pas eu de défauts. Non, je pense que certainement la discrétion, je pense que la discrétion, c'est très important. Hein.
La règle d'or, c'est la discrétion. C'est vraiment le secret professionnel.
C'est tout à fait, c'est entièrement le secret professionnel, comme chez le médecin. Parce qu'on rentre tout aussi bien dans l'intimité de la famille.
Vous avez vu vos patrons sous leurs pires aspects ?
Ah ben bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on était au courant de... J'ai travaillé dans... Je ne suis pas restée longtemps, mais il n'y a pas tellement longtemps, c'était en 83. J'ai travaillé dans chez des personnes âgées. Elle menait sa vie d'un côté, lui de l'autre. J'étais au courant d'un tas de choses. Elle entretenait toute une cour de jeunes gens. Elle en avait 70, même plus, et elle avait des jeunes gens d'une quarantaine d'années pour se donner l'impression d'être encore jeune. Puis alors elle, c'était l'argent qui comptait, donc automatiquement, elle les asservissait, là, pour le coup. Ça faisait des quiproquos à n'en plus finir, alors... fallait que je fasse attention, je parlais à elle quand je parlais à lui.
Pour pas vous couper ?
Pour pas me couper, alors non, c'était... J'aurais pu y rester plus, parce que c'était même rigolo des moments, mais enfin bon, je suis partie.
Orsù, spicciati questo cosa vuoi, l'affar di cui si tratta è importante.
Lo credo.
È importantissimo.
Meglio ancora, finiscila.
Giurate di non andare in collera.
Lo giuro sul mio onore.
Caro signor padrone, la vita che minate è da briccone.
Temerario, in tal guisa!
Il giuramento!
Non sono due giuramenti, taci, occhio!
Non parlo più, non fiato, parlo mio!
Epilogue. Pedro Joachim, vous avez une bonne place ici.
Une très bonne place. Je peux vous dire que j'ai une très bonne place et j'ai une mauvaise place. C'est-à-dire, je vais vous dire, j'ai mes appartements derrière. C'est-à-dire, une petite salle de bain, une kitchenette, la chambre de ma fille et ma chambre.
Au deuxième étage.
Là, même à ce niveau-là, au troisième étage de l'immeuble, derrière. Je vais vous montrer ça. Et des fois, demain, on va au cinéma avec quelqu'un, on va dans une soirée. Il va tout seul. Surtout, ne vous dérangez pas, Pedro, j'y vais tout seul. Il va tout seul, il rentre, il écoute la télé chez nous, il monte chez nous, il s'assoit à côté de chez nous. Ma femme, moi et ma femme, je suis au lit, il est là, il bavarde et tout avec nous. Moi, j'ai le câble en haut, lui, il l'a pas. Des fois, il veut voir Arte. Il monte chez moi, il s'endort sur le lit. Nous, on le réveille calmement pour qu'il aille se coucher chez lui, parce qu'on va se coucher. Ça m'arrive de qu'il soit au lit par exemple et que moi et ma femme on monte après qu'on ait fait le service en bas, on monte et je vais lui dire bonsoir monsieur, il y en a, on s'assoit au pied du lit et on bavarde. Des fois j'aime beaucoup m'asseoir par terre dans sa chambre et on bavarde 5-10 minutes, on prévoit les choses pour demain, on dit les choses qui ont été bien dans le jour, ce qui a été mauvais. Ça arrive très très souvent même. Il se promène tout le temps en pyjama dans la maison. Moi, je suis en train de prendre ma douche. Il rentre dans la salle de bain. Il dit, Pedro, après, on va ici, on va là. Des fois, il me laisse un petit mot en bas parce que il sent que c'est quelqu'un qui sent bien quand je suis fatigué. Il me laisse un petit mot. Je me lève pour faire le petit déjeuner. Il me dit, Pedro, mon bon Pedro, je suis au Stella. Il est parti au Stella prendre son petit déjeuner pour ne pas me déranger. Il arrive aussi que des fois... Il ne sait pas si je suis rêvé parce que j'aime bien dormir avec la fenêtre ouverte. Et comme ma fille a une façon de dormir mauvaise, il s'est habitué, je l'ai habitué, mal habitué, à dormir avec ou ma femme. Moi, je dors, je fais lit à part. Et je dors dans la chambre de ma fille dort avec ma femme. Et des fois, il arrive, il vient près de moi, il me dit, Pedro, ne vous réveillez pas, je vais au café. Alors moi, je lui dis, mais pourquoi vous me dites, ne me réveillez pas si vous venez de me réveiller. Attendez, allez-y, allez vous habiller, prenez votre douche, je vais prendre le petit déjeuner. Vous me faites chier, monsieur, vous me faites chier. Moi, vous savez, je lui parle comme quelqu'un de mon niveau. Et moi, je lui dis, vous savez, monsieur, vous nivelez par le haut, moi, je nivelle par le bas. Et je lui reproche ça. Je lui reproche ça. Je lui dis, écoutez, monsieur, vous êtes patron, moi, je suis employé. Alors, chacun sa place. Je lui dis, au bureau, partout, il y a une différence. Occupez-vous votre place, laissez les autres occuper. Non, mais partout, il n'y a pas de différence pour lui. Il vient, vous savez, on arrive au bureau, des fois je vais au bureau avec lui, je garde la voiture, je me dépêche, je vais dans son bureau.
Vous êtes chauffeur aussi?
Je fais tout, comme je fais chauffeur, je sers à table. Je ne fais pas la cuisine, ma femme me
casse. Vous servez à table?
Je sers à table.
Vous ne mangez pas avec lui, à la même table que lui, donc?
Non, jamais. Je mange dans ma cuisine, et tout le temps, il me dit, Pedro, venez, je ne vous écoute pas, lavez les oreilles. Mais je ne vous entends pas ce que vous me dites. Lavez les oreilles. Je lui dis, il veut que j'aille manger, surtout le petit quand il est seul. Alors, lui, il a trouvé la parade. Il vient manger à la cuisine avec nous.
on est indépendant, si vous voulez, dans une certaine dépendance. Mais ça nous plaît, ça, comme ça. Et c'est pas du travail. C'est du travail quand ça m'embête. C'est-à-dire que des fois, il me dit, Pedro, est-ce que vous pourriez me faire ceci ou cela? Je le ressens comme un travail. Mais s'il dit, bon, Pedro, je vais aller au cinéma, je dis, attendez, monsieur, je vous amène. Vous voyez ce que je veux dire?
Au bout du compte, à la fin du mois, quand vous touchez votre chèque, vous avez le sentiment d'avoir gagné cet argent?
La plupart du temps, non. Et je vais vous dire, ça fait, je ne sais pas combien de temps que je suis là, mais jamais je lui ai dit, c'est pour qu'on la paye. Jamais, jamais, jamais. Vous savez, c'est quelqu'un qui... Je peux pas... J'arrive pas à le décrire. Je sais pas. Je l'adore. Je le déteste. Je le haïs. Je l'aime. Je peux pas lui dire ce qu'il est pour moi, parce que... Pour pas tomber dans les vulgarités... J'aurais pu vous poser une question. Est-ce que vous serez capable de me décrire Dieu? Moi, je ne suis pas capable de décrire mon patron.
Jean de Maison. Aujourd'hui, l'étrange maison d'Anatole. Vue par Pedro Joachim, secrétaire particulier, avec Anna Joachim, Anatole Doman, et avec les voix de Suzanne Asquette, Annick Caillère, Anna Flandre, Geneviève Guyot, Giuseppe Santo, Robert Guyot, Suzanne Reynac, Michel Lebescon. Prise de son, Patrice Klein. Mixage, Monique Burguière, Éric Boisset. Réalisation, Christine Robert. Une émission de Marion Thibault.